Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés au quatrième chapitre de mon cours pour l'année 2021. Mine de rien, le temps passe vite malgré la pandémie. Pour récapituler un peu, je vous rappellerai que la première leçon avait été consacrée à une sorte de récapitulatif de ce que nous avions fait l'année passée. Et j'avais présenté un peu les grandes lignes de ce que je me proposais de faire cette année-ci. Ensuite, j'avais commencé par ce que j'appelais la ruée vers l'Occident. Et vous vous souviendrez que cette leçon était essentiellement consacrée à une lecture détaillée, au plus près, de l'édit des réformes, de l'édit de 1856, celui qui, en quelque sorte, constituer le début de l'occidentalisation tout azimut de l'Empire ottoman. Un texte qui avait été en grande partie rédigé par les grandes puissances et qui, par conséquent, imposait à l'Empire de reconnaître la diversité de ses populations, de reconnaître le caractère multiethnique et multiconfessionnel de son empire, et d'accorder à ceux qui jusque-là étaient traités en inférieurs, en citoyens ou plutôt en sujets de second rang, aux non-musulmans, l'égalité devant la loi, l'égalité, un statut d'égalité, ce qui, bien sûr, avait froissé, vexé un grand nombre de groupes, notamment les musulmans, qui se voyaient tout d'un coup lésés de ce qu'ils considéraient être leur droit le plus naturel à une supériorité, à un statut d'exception dans l'Empire. J'avais évoqué quelques réactions, notamment de Mustapha Reshid Pacha, qui s'était insurgé contre la soumission que représentait le texte de cet édit. J'avais évoqué une tentative de régicide, une conjuration qui visait à éliminer le sultan Abdelmejid, jugé responsable de cet acte, une conjuration qui avait été avortée. Ensuite, nous étions passés à ce que j'appelais l'enthousiasme et les occasions ratées. Les années 1860, où j'expliquais que certains développements promettaient effectivement la modernité et le progrès à l'Empire. J'avais évoqué par exemple la Banque ottomane, une institution qui avait débuté au même moment que l'édit de 1856, donc quelque chose qui s'inscrivait immédiatement dans la continuité de cette intention déclarée par l'Empire de s'ouvrir à l'Occident, non seulement par l'égalité, mais aussi par le capitalisme, en quelque sorte, en invitant les capitaux étrangers à investir dans l'Empire ottoman. Donc la Banque ottomane était un de ces exemples, disons, positifs d'une institution qui, au bout de 6-7 ans de son existence, avait fait preuve de ses capacités et par conséquent avait été en quelque sorte récompensée par le gouvernement qui avait besoin d'une banque d'État, qui devait réorganiser ses finances et qui avait besoin d'une institution forte pour le faire, qui avait été donc récompensée par le statut de banque impériale. Donc, un exemple positif, si vous voulez, mais beaucoup d'exemples le sont bien moins. J'avais évoqué un des premiers développements qui vient à l'esprit quand on parle de progrès au XIXe siècle, les chemins de fer. Même si dès 1856, notre bon médaillé bruxellois Hart avait frappé une médaille avec une locomotive et une devise qui promettait l'union des peuples par les communications, par les moyens de transport, etc. Ce n'est que dans les années 1860 que les premières tentatives voit le jour. Dans le cas du chemin de fer d'Izmir à Aydın ou d'Izmir à Kasaba, Turgutlu, on est face à des projets qui sont extrêmement limités dans leur portée, des projets qui n'ont en fait qu'un objectif, celui de faciliter l'exploitation des ressources, surtout agricoles, de l'arrière-pays d'Izmir et d'acheminer vers le port les denrées qui seraient par la suite exportées vers l'Europe. Donc un projet, deux projets très limités, et on parle d'à peine une centaine de kilomètres dans l'un des cas, et des projets qui sont extrêmement ciblés puisqu'ils n'ont qu'un objectif, celui de servir la commercialisation de l'agriculture dans l'Empire ottoman, sans jamais évoquer un véritable avantage qui découlerait pour la population de l'Empire, puisque ce qui est visé, c'est essentiellement les marchandises, le commerce et le développement du capitalisme. Donc il y a dans les années 1860, un doux mélange entre des entreprises, des projets qui vont dans le sens de la continuité des intentions marquées par l'édit des Tanzimat, l'édit des réformes, mais aussi beaucoup d'échecs, c'est-à-dire des projets qui restent soit mort-nés, soit très éphémères, soit très limités, et qui par conséquent n'amènent pas à l'Empire ce que l'on pourrait escompter en matière de progrès, de développement économique, de développement social, culturel, etc. J'avais aussi évoqué la question de la pluralité. Comment gère-t-on la pluralité une fois que l'on a fait cette promesse d'égalité en 1856? Est-ce que vraiment on a les moyens d'appliquer ce principe et d'essayer d'intégrer les non-musulmans dans le système ottoman, à la fois politique, culturel et économique, sur un pied d'égalité. Alors, du point de vue de l'économie, et ça nous aurons l'occasion d'en reparler, les non-musulmans ont déjà un avantage relatif, c'est que parce que depuis le XVIIIe siècle au moins, ils sont relégués à une inactivité politique, parce qu'ils sont interdits de participer à la chose politique, à la res publica dans l'Empire, ils se sont tout naturellement reportés sur le commerce, sur les activités économiques et financières. Donc il y a un profil du non-musulman engagé dans les affaires qui est déjà très présent, du moins pour la crème de ces communautés, c'est-à-dire la bourgeoisie grecque, arménienne et juive. C'est d'ailleurs un problème historiographique, puisque le nationalisme, à la fois ottoman et encore plus turc au XXe siècle, vont reprendre cet état de fait pour y voir une bourgeoisie de comprador, c'est-à-dire une bourgeoisie qui est à la solde, en quelque sorte, de l'impérialisme occidental, et voir par conséquent, dans cet engagement économique des classes non musulmanes, une sorte de trahison, une sorte de volonté de trahir les intérêts politiques de l'Empire ottoman en se jetant dans les bras, littéralement, des grandes puissances, et par conséquent miser sur l'exploitation de l'Empire pour assurer leur propre survie. Il va de soi que c'est là, bien sûr, une vision extrêmement distordue, extrêmement biaisée, très typique un peu des idéologies du XXe siècle, la réaction anti-impérialiste qui sous-tend la plupart des nationalismes du tiers-monde a souvent utilisé cet argument pour justifier l'exclusion à nouveau de certaines minorités de la nation. Donc c'est le cas du nationalisme turc et du nationalisme turco-ottoman déjà au début du XXe siècle. Mais il faut se rendre compte que même s'il y a un fond de réalité, un fond de vérité dans cet état de fait, cette réalité est une sorte de corollaire de la situation d'inégalité qui définissait le statut des non-musulmans dans l'Empire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que l'exclusion des non-musulmans d'un système égalitaire qui leur donnerait accès à une volonté politique ou du moins à une voix politique dans le système est quelque chose qui les pousse directement à d'abord essayer de trouver un autre moyen de survie, et l'économie et les finances, c'est évidemment ce qu'il y a de plus engageant, de plus prometteur dans ce contexte, mais aussi de se prémunir contre les abus, contre l'arbitraire que représente le système impérial, en recherchant une forme de protection des grandes puissances. Les grandes puissances sont en train de monter en puissance, c'est le cas de le dire, et par conséquent, leur zone d'influence commence à s'accroître, commence à s'approfondir dans l'Empire ottoman, et par conséquent, on voit l'émergence d'un système que l'on appelle celui de la protection, le système des protégés, c'est-à-dire le droit qui est donné aux ambassades occidentales établies à Constantinople et aux consuls de ces mêmes puissances dans les principales villes de province, de recruter au sein de la population locale des gens qui sont en principe nécessaires à la gestion des affaires de l'ambassade ou du consulat. C'est un peu comme ça que le système commence déjà au XVIIe siècle, il se développe au XVIIIe siècle, c'est ce que l'on appelle les baratères dans le jargon français du XVIIIe siècle, c'est-à-dire des non-musulmans qui sont munis d'un berat, un berat étant un diplôme, une lettre patente, un document officiel de l'Empire qui reconnaît le fait que ces individus sont au service des diplomates ou des consuls occidentaux et que, en tant que tels, ils ont droit à une certaine protection de ces ambassades, de ces consulats. Ils sont exemptés, par exemple, de la capitation, de cet impôt arbitraire et insultant que représente l'impôt payé par les adultes mâles de la population non musulmane. Ils ont d'autres avantages qui les mettent un peu à l'écart de la masse des communautés dont ils sont issus. Seulement, ce qui commence comme un avantage, comme un privilège accordé à un petit nombre d'individus qui sont généralement des drogmans, c'est-à-dire des interprètes, ou des sensos, comme on les appelle au XVIIIe siècle, c'est-à-dire des agents qui établissent les contacts et les négociations entre les négociants occidentaux et les marchands locaux. Ce sont vraiment des intermédiaires qui jouissent de ce privilège et on en compte parfois quelques dizaines, mais ça ne va pas au-delà de cela. Pourtant, vers la fin du XVIIIe siècle, on voit que le système de la protection, c'est-à-dire la distribution de berat, de ces diplômes, de ces privilèges par les ambassades occidentales, augmente énormément, puisque les non-musulmans qui ont les moyens de s'acheter un berat, puisque on paye les ambassades pour ce privilège, voit dans cette option un moyen très efficace de les mettre à l'abri de toutes sortes d'oppressions, de toutes sortes de pressions, toutes sortes d'iniquités qui pourraient résulter du système très inégal dans lequel ils sont obligés d'évoluer. Et par conséquent, c'est un peu l'État ottoman lui-même, en ne reconnaissant pas l'égalité, en ne donnant pas voix au chapitre à ces non-musulmans, qui les encourage en quelque sorte à chercher leur protection ailleurs. Et pour cela, les ambassades disposent bien sûr de leur influence, qui va croissant au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, on parle désormais des grandes puissances qui disent sur l'influence que ces ambassades peuvent exercer sur le gouvernement ottoman. Les ambassades disposent de leur influence, mais elles disposent aussi de ce que l'on appelle les capitulations. Alors les capitulations, c'est un système qui a déjà été créé au XVe, XVIe siècle, quelque chose qui est apparu comme une sorte de solution, entre guillemets, innocente, utilisée par les Ottomans afin de donner un statut juridique à des étrangers. Parce que le problème de la charia, c'est que la charia n'a pas de jus gentium, de droit des gens, c'est-à-dire d'une législation qui permette de gérer les affaires de résidents étrangers dans la communauté musulmane. Les étrangers, quand ils sont non musulmans, sont nécessairement compris dans cette catégorie des harbi, c'est-à-dire de ceux contre qui on est tenu de faire la guerre. Tout au plus peut-on leur accorder, encore une fois selon la charia, ce qu'on appelle un aman, c'est-à-dire un pardon ou un laissez-passer, c'est-à-dire un document temporaire, une protection temporaire qui leur permet individuellement et parfois collectivement de résider en terre d'islam sans être inquiétés. Or, les Ottomans, dès le XVe siècle, sont conscients de la nécessité qu'il y a de gérer la présence, de reconnaître et de gérer la présence de marchands, surtout étrangers, mais aussi de voyageurs, de pèlerins, de religieux étrangers résidant dans l'Empire ottoman. Et plutôt que de développer, plutôt que de donner des amans, donc des pardons individuels, ils ont la bonne idée de développer à partir de ce principe-là ce qu'on appelle les capitulations, c'est-à-dire un traité, pas vraiment un traité bilatéral, puisque c'est quelque chose qui est octroyé par le sultan et par conséquent qui n'est signé que par lui et non par les représentants d'une puissance étrangère. Donc un traité qui est octroyé par le sultan et qui donne à tous les sujets d'un prince, d'un roi, d'une nation, le droit à, de s'installer dans l'Empire ottoman et de jouir de certains privilèges qui lui permettent de commercer et de circuler, de vivre plus ou moins facilement en terre d'islam. Au début, c'est donc une solution pratique à un problème très concret, mais au fur et à mesure que la puissance, l'influence diplomatique, militaire, politique des nations européennes croît, augmente, les capitulations vont devenir non plus quelque chose qui est octroyé avec magnanimité par le sultan, mais quelque chose qui est demandé, exigé du sultan, et qui par conséquent va le forcer à reconnaître toutes sortes de privilèges à ceux qui sont inclus dans dans la notion de capitulation. Et par conséquent, au XVIIIe siècle déjà, les capitulations de 1740 qui sont octroyées à la France sont les dernières capitulations pour une bonne et simple raison, c'est que contrairement à la tradition ottomane qui voulait que les capitulations soient renouvelées à chaque règne, Les capitulations de 1740 sont octroyées par le sultan Mahmoud Ier, à cette époque-là, par le sultan Mahmoud Ier, en son nom et au nom de tous ses successeurs. Ça devient en quelque sorte un privilège permanent. Et c'est pourquoi les capitulations ne seront plus jamais renouvelées et elles auront atteint en quelque sorte la perfection d'une sorte de traité de protection des non-musulmans étrangers résidant dans l'Empire. Donc les Français, les Anglais, puisque toutes les nations vont suivre l'exemple français et obtenir de la Sublime Porte l'octroi de capitulations identiques à celles qui ont été octroyées aux Français en 1740. Le résultat, c'est que la situation est complètement inversée d'un système qui voulait en quelque sorte intégrer ou permettre aux étrangers de s'intégrer jusqu'à un certain niveau sans tomber dans la servitude ou dans la soumission qui caractérisait les non-musulmans du cru, les non-musulmans sujets de l'Empire, on est passé à un système où l'Empire ottoman doit reconnaître l'extraterritorialité, l'impunité des sujets des nations européennes et leur accorder de ce fait toutes sortes d'avantages qui ne sont pas accessibles à la population locale, aux non-musulmans notamment, mais même aux musulmans, notamment pour ce qui est des droits de douane qui sont extrêmement bas, qui sont maintenus extrêmement bas, afin de constituer un avantage pour le commerce occidental. Et les capitulations comprennent justement cette notion de protection qui devient de ce fait un droit, un privilège que peuvent utiliser les nations occidentales comme elles l'entendent, comme elles le veulent, en distribuant un nombre de plus en plus important, parfois illimité, de berat, de lettres patentes de protection à des non-musulmans. Ce qui, pour les non-musulmans, est une protection extrêmement précieuse, puisqu'ils sont, en cas de pépin, en cas de tension ou de conflit avec les autorités ottomanes, ils sont protégés par les consulats et par les ambassades, et en plus, ils peuvent prétendre à certains des privilèges économiques et commerciaux qui sont compris dans les clauses des capitulations. Donc, au XIXe siècle, les non-musulmans, mais je parle vraiment de la crème des non-musulmans, ceux qui ont les moyens de s'associer ainsi au commerce et à la politique étrangères dans l'Empire ottoman peuvent bénéficier d'un statut d'exception qui les rend pratiquement intouchables par les autorités ottomanes. Alors là, bien sûr, il y a un noyau d'exploitation, même si au départ il s'agit essentiellement d'un désir de se protéger, de se prémunir contre les abus que représente le système très inégal de l'Empire, il y a quand même un noyau d'une forme d'exploitation au sein de l'Empire même qui va avantager une toute petite portion de la communauté non musulmane et qui va nourrir par conséquent toutes les théories nationalistes, toutes les réactions xénophobes ou même racistes qui vont se développer à partir du XXe siècle pour expliquer la chute de l'Empire, le déclin de l'Empire par cette exploitation d'une sorte de cinquième colonne non musulmane, une cinquième colonne économique qui est en train de ronger en quelque sorte la vitalité de l'Empire ottoman en servant les intérêts économiques et financiers de l'Occident. vaste exagération, d'autant plus que lorsqu'on parle de la population non musulmane de l'Empire, il faut savoir qu'elle représente en gros au moins la moitié, vers le milieu du XIXe siècle, au moins la moitié de la population de l'Empire, et que par conséquent, la très grande majorité de cette population non musulmane vit dans des conditions économiques et financières qui sont pratiquement identiques à celles des musulmans, des artisans ou des paysans musulmans, les paysans grecs, les paysans arméniens, les petits artisans arméniens, grecs ou juifs des grandes villes de l'Empire et des villes et des villages des provinces anatoliennes ou autres de l'Empire vivent dans des conditions qui ne peuvent absolument pas être expliquées par le développement, la croissance de la puissance diplomatique, économique et politique des grandes puissances. Il est vrai que certaines villes, celles justement qui se développent un peu en synchronicité avec le développement de l'économie monde du XIXe siècle, certaines villes, les villes portuaires, qui sont directement intégrées dans les réseaux commerciaux de l'Occident, du capitalisme occidental, là, dans ces villes-là, on va effectivement voir l'émergence d'une bourgeoisie qui est très lié, même politiquement et culturellement, très lié à l'Occident. Mais c'est une exception qui confirme la règle, en fait, d'un profil extrêmement modeste pour la très grande majorité des non-musulmans. Évidemment, l'Occident utilise ses agents de son influence, et par conséquent, c'est un jeu diplomatique qui se joue entre les agents diplomatiques de l'Occident, des grandes puissances, qui veulent se tailler une zone d'influence de plus en plus importante dans l'Empire ottoman, et certains groupes au sein des communautés non musulmanes qui répondent à cette demande et qui voient l'avantage pouvoir se protéger d'un système qui est parfois bien trop abusif, bien trop dur à leur égard. D'ailleurs, ce n'est pas que le commerce. Nous l'avons vu lorsque nous parlions des clauses de l'édit des réformes. La liberté des cultes est quelque chose qui ouvre les portes au prosélytisme, c'est-à-dire à la conversion des populations non musulmanes locales à des formes de chrétienté qui sont beaucoup plus occidentales. Le protestantisme promu et développé par les Britanniques, mais surtout par les missionnaires américains qui, à partir des années 1840, vont commencer à parcourir l'Anatolie profonde et les provinces arabes en quête de nouvelles ouailles. Le catholicisme aussi, qui a déjà au XVIIIe siècle bien avancé au sein de la communauté arménienne, au point qu'au XIXe siècle, il y a constitution d'une nation arménienne catholique, d'une millet arménienne catholique, avec un patriarche qui est reconnu par le gouvernement ottoman. Et par conséquent, la religion, et nous l'avons vu aussi dans le cas de la Russie, pour ce qui est des populations grecques orthodoxes, les grandes puissances ont énormément de cartes à jouer, d'atouts qu'elles peuvent utiliser pour se constituer une clientèle, si vous voulez, une forme de loyauté des populations non musulmanes au sein de l'Empire, ce qui leur permet de s'implanter un peu mieux dans l'Empire. Et c'est ce que je rattacherai au dernier commentaire de ma leçon précédente, lorsque j'avais parlé de cette pluralité. J'avais parlé du fait qu'il n'y avait pas vraiment pluralisme, j'avais donné les exemples d'une croissance très remarquable de la présence de non-musulmans dans le domaine public, dans certains services de l'État, les ministères. J'avais donné en particulier l'exemple du ministère des Affaires étrangères, un des ministères les plus ouverts, en quelque sorte, à ce genre de recrutement d'un type nouveau. Mais c'est le cas aussi des travaux publics, de l'éducation, etc. Donc, il y a une sorte de réponse, il y a du côté de l'Empire, du côté de l'État, il y a une reconnaissance de ce qu'on appelle l'ottomanisme, c'est-à-dire le fait de vouloir redéfinir la sujétion au sultan. On ne parle pas encore de citoyenneté, vraiment, puisqu'il n'y a pas de système représentatif, il n'y a pas de parlement, etc. Ce sont encore des sujets du sultan, mais ce sont des sujets égaux. Et par conséquent, l'ottomanisme tente de créer des liens d'attachement, de patriotisme et de loyauté qui viserait à intégrer tous les éléments de cette population extrêmement diverse et variée, en suggérant en quelque sorte que l'Empire est l'Empire de tous, il est l'Empire des musulmans, il est aussi l'Empire des Grecs orthodoxes, il est aussi l'Empire des Arméniens, des Juifs, et que par conséquent, l'État, en ouvrant les portes de la fonction publique, par exemple, à ces communautés qui jusque-là étaient en grande partie exclues du jeu politique, est en train de prouver qu'il y a pour ces communautés-là un avenir qui constitue une alternative au cauchemar qui hante l'esprit de tous les dirigeants de l'Empire à cette époque-là, le cauchemar de la sécession, le cauchemar de l'indépendance. Encore une fois, le traumatisme de la sécession de la Grèce, le traumatisme de la guerre d'indépendance de Grèce est encore assez vif dans les esprits. On s'en souvient et on a, pour s'en souvenir, la présence de cette nouvelle nation, ce nouvel État-nation, le royaume de Grèce aux portes de l'Empire, qui est reconnu par toute l'Europe comme un acteur légitime dans le jeu politique et diplomatique. Et par conséquent, on ne voudrait pas voir cela arriver aux Bulgares, aux Roumains, à toutes ces populations. On s'inquiète encore très peu des Arabes, puisque le nationalisme ne les a pas encore touchés et les grandes puissances n'ont pas vraiment de prise sur les populations arabes et de toute façon s'en soucient bien moins que des populations chrétiennes et balkaniques en particulier. Donc, le cauchemar des Tanzimat, le cauchemar de l'Empire, c'est de voir l'Empire s'effriter avec la création de petits États-nations, chacun revendiquant sa part sur la base d'une différence ethnique, religieuse, etc. Et par conséquent, l'ottomanisme est vu comme l'antidote qui arrêtera ces velléités. Et d'un certain point de vue, c'est vrai que ça marche. Il faut quand même savoir que jusqu'à la fin de l'Empire, ou en tout cas jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a dans l'Empire ottoman beaucoup plus de Grecs qu'il n'y en a en Grèce. Donc il y a quand même, au-delà de la difficulté qu'il y a pour les populations aux moyens modestes de se déplacer, mais c'est vrai aussi que vous avez toute une bonne bourgeoisie de banquiers, d'hommes d'affaires, d'intellectuels grecs, par exemple, qui, pour rien au monde, ne voudraient quitter Constantinople. Pourquoi ? Parce que Constantinople est une ville riche, c'est une ville, ce que Athènes n'est pas encore. Athènes, c'est quand même une petite bourgade qui essaye de se hisser au niveau d'une capitale, mais elle en est bien loin. Constantinople, c'est aussi la capitale d'un empire, ce qui veut dire qu'il y a un arrière-pays économique, financier, politique, culturel, qui est extrêmement riche et qui peut être encore exploité. Et par conséquent, quand on met dans la balance Les velléités nationalistes et une sorte d'allégeance à ce nouvel État-nation qui s'est fondé à peu de distance de l'Empire, et le romantisme, si vous voulez, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de l'autre côté, les avantages pratiques, économiques, culturels, politiques de rester dans le giron de l'Empire, il est clair que pour une très grande majorité d'individus qui résident à Constantinople ou à Smyrne ou dans la plupart des villes de l'Empire, je ne parle même pas des paysans parce que pour eux l'option ne se présente pas vraiment, il y a un avantage très concret à rester dans l'Empire ottoman. Ce qui prouve en quelque sorte que l'Empire ottoman est encore, malgré tous les problèmes, est encore une formule qui marche, est encore une formule qui arrive à avoir l'assentiment, le consentement d'une très forte majorité de sa population qui rêve de quitter l'Empire, mais plutôt de réformer l'Empire afin d'obtenir de plus gros avantages et un accès beaucoup plus libre à la puissance politique, à la voie politique dans le système. Ce qui explique que vers la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de byzantino-ottomanistes, des Grecs, qui croient que la solution pour l'Empire ottoman, c'est en gros de conserver, du moins symboliquement, la présence des Turcs, entre guillemets, au sommet de l'État, notamment pour ce qui est de l'armée, de la bureaucratie militaire, le sultanat lui-même, etc., mais de promouvoir un système qui puisse intégrer de plus en plus les Grecs pour qu'eux-mêmes puissent gérer les parties les plus vitales de l'Empire, telles l'économie, telles la culture, telles la diplomatie, etc. Donc voir en quelque sorte avoir un rêve de faire renaître l'Empire byzantin sous une autre couronne, sous un turban, si vous voulez, quelque chose qui donnera à l'Empire ottoman beaucoup plus de puissance que l'État-nation, le petit État-nation grec, ne pourra jamais prétendre avoir. Donc, il faut savoir donc, que cet ottomanisme, celui que j'ai décrit sur cette banquenote de l'Empire ottoman qui était rédigée en cinq langues, grec, arménien, arabe, turc, français, etc. Cet ottomanisme, même s'il est naïf, même si à long terme il n'est pas réaliste, il parvient quand même à maintenir un certain équilibre et de créer ce que l'on pourrait appeler un rêve ottoman, un Ottoman Dream, pour reprendre la version américaine du rêve, n'est-ce pas? Un Ottoman Dream, un rêve ottoman de jours meilleurs, atteint grâce à la réforme de fond en comble du système qui permettrait justement à tous les éléments constitutifs de gérer cette bête immense qu'est l'Empire ottoman, et par conséquent de former pour chacune des communautés une part de pouvoir, une part de puissance, une participation à la chose publique qui soit représentative de leur représentation démographique dans l'Empire. Et c'est dans ce contexte-là que j'avais évoqué un cosmopolitisme de seconde zone, un cosmopolitisme que je qualifie de levantin ou même de colonial. J'avais donné quelques exemples, notamment cette publicité que j'adore, cette réclame que j'adore pour le Grand Bazar parisien à Istanbul même en 1848, où cette feuille de chou en français publiée dans la capitale de l'Empire fait de la publicité pour des produits parisiens, des produits français, des produits occidentaux, en s'adressant essentiellement aux chrétiens de l'Empire. Et c'est un peu ça que j'appelle un cosmopolitisme levantin ou un cosmopolitisme colonial, puisque ce cosmopolitisme, il dépend essentiellement de normes et de valeurs et de modèles civilisationnels qui sont extérieurs à l'Empire. Je pense que cette distinction est importante, puisque le cosmopolitisme, alors je mets de côté le cosmopolitisme des Lumières, qui concerne plutôt les individus qui sont cosmopolites, je suis un citoyen du monde. C'est un peu le rêve des Lumières. Mais le cosmopolitisme dont je parle, c'est un cosmopolitisme appliqué à une communauté, à une ville, voire même à un pays qui trouverait un avantage à la mixité, au mélange, au-delà de la simple coexistence. Puisque, encore une fois, l'Empire ottoman a toujours été pluriel. Il a toujours été formé de communautés qui coexistaient, mais qui essayaient autant possible de ne pas se frotter les unes aux autres. Et c'est un principe très sain, notamment dans un contexte pré-moderne, pré-industriel, il est clair que moins il y a de friction, moins il y a de contact entre les communautés, moins il y a de risques de tensions, voire même de conflits. Alors, l'Europe nous en a fourni l'exemple extrême, en pratiquant l'expulsion de ceux qui ne participaient pas au profil jugé propre au royaume, l'expulsion des Juifs ou des Morisques d'Espagne, l'expulsion des protestants de France après la révocation de l'édit de Nantes. Et puis, bien sûr, il y a la préservation de certaines communautés, mais l'emprisonnement, en quelque sorte, l'exclusion à l'intérieur même de la communauté, c'est le ghetto tel qu'il a été appliqué, notamment dans les villes italiennes pendant la période moderne. La formule occidentale, elle est très dure. Donc, il ne faut pas se méprendre si la France et le reste de l'Europe, au XIXe siècle, se sont mis à l'égalité, c'est uniquement parce que, j'exagère un peu, mais c'est essentiellement, c'est surtout parce que pendant les siècles précédents, il y avait eu une sorte de nettoyage de la population de l'Empire qui avait été forcée à s'homogénéiser, généralement par la religion. Et par conséquent, une fois que vous avez au XVIIIe siècle une population française qui est en grande partie homogène, non pas par la langue encore, mais en tout cas par la religion, etc., et que vous avez un monarque qui pourrait déjà se prétendre roi des Français, la Révolution amène à cette situation d'homogénéité un principe d'égalité qui vise essentiellement les droits politiques de gens qui sont déjà jugés faire partie de la nation. Donc il n'y a pas de problème concernant l'identité religieuse, etc., des individus vivant dans le royaume de France. Et par conséquent, le principe de l'égalité, de l'intégration des masses dans la politique par la représentation, par le vote, par toutes sortes de processus politiques, est quelque chose qui se fait relativement facilement au XIXe siècle, puisqu'il y a déjà une assiette homogène sur laquelle asseoir ces transformations. Et je soulignerai aussi, lorsqu'on parle de l'édit des réformes, l'ironie qu'il y a de voir que les grandes puissances, notamment la France et la Grande-Bretagne, sont en train d'imposer aux Ottomans la reconnaissance de l'égalité de tous leurs sujets à un moment où ces deux grandes puissances sont en train de se constituer en empires coloniaux, où le principe même, c'est que les populations coloniales, les populations vivant en dehors de la métropole où tout le jeu de l'égalité se joue, où la représentation politique devient de plus en plus, plus importante, tous ces sujets-là sont complètement démunis des droits dont jouissent les citoyens de la métropole. Et par conséquent, la France ou la Grande-Bretagne, en tant que puissance coloniale, sont loin de répondre aux principes qu'elles veulent imposer à l'Empire ottoman. Un Arménien ou le Bédouin arabe du fin fond des déserts de la Syrie ou de l'Irak sont en principe, après 1856, beaucoup plus égaux que les populations algériennes ou indiennes, dans le cas de la Grande-Bretagne, ne le sont à la même période. Rappelons quand même que ce n'est qu'en 1870 que la loi Crémieux donnera, et uniquement aux Juifs d'Algérie, la possibilité de devenir citoyens français. Donc il y a là un double jeu, un double standard qui est quand même assez flagrant et assez frustrant quand on voit un peu la manière dont la politique internationale se mêle de la situation au sein de l'Empire. Donc vous avez là une situation de pluralité qui, sur le papier, débouche sur la reconnaissance de l'égalité, mais en fait, cette mixité, elle reste extrêmement limitée, notamment dans les couches moyennes, et ce n'est vraiment qu'aux deux extrémités que l'on peut parler dans l'Empire ottoman d'une forme de cosmopolitisme. La culture ottomane du palais, par exemple, que ce soit la cuisine, la musique, on peut penser à toutes sortes d'art et de raffinements que l'on associe avec la vie du palais, c'est un environnement très cosmopolite. On sait que les musiciens au XVIIe ou XVIIIe siècle, les musiciens ottomans, sont juifs, sont arméniens, il y a un héritage de la musique byzantine, etc. Et c'est le propre d'un empire, justement, que de se nourrir de cultures extrêmement différentes et d'en tirer une culture impériale, une culture cosmopolite, qui est cosmopolite du simple fait d'être différente de chacun des éléments constitutifs de cette culture. Donc ce n'est plus de la juxtaposition ou de l'appropriation de telle ou telle culture, c'est un doux mélange. Et à partir du moment où vous parlez d'un tout qui est différent des éléments constitutifs, vous avez quelque chose de différent. Et là, je peux parler de cosmopolitisme. J'en parlerai aussi au bas de l'échelle, c'est-à-dire dans le bas monde des bouges, des ports de l'Empire, dans ce monde où l'on parle ce qu'on appelle la lingua franca, que Jocelyne Darclia a très bien étudié, qui est un sabir constitué d'un peu de français, un peu d'italien, de grec, de turc, d'arabe, de catalan, etc., et qui est une langue qui est parlée dans pratiquement tous les ports de la Méditerranée et qui permet justement à ces gens d'une couche sociale extrêmement modeste, plus que modeste, mais qui bougent énormément, qui leur permet de se fondre dans n'importe quel moule culturel et de trouver des âmes frères et une culture sœur dans des contrées extrêmement différentes, ce qui, encore une fois, est une forme de cosmopolitisme. C'est au milieu, si vous voulez, les classes moyennes. Pour la période prémoderne, c'est difficile de parler vraiment de classe moyenne, mais le bon bourgeois de Constantinople, qu'il soit grec, arménien ou musulman, n'a pas ce genre de besoin. Il n'a pas vraiment besoin de pratiquer une autre langue. Il ne va pas se nourrir d'une musique exotique, etc. Il va pratiquer plutôt sa propre culture et par conséquent s'isoler sans se ghettoiser, s'isoler de mélange. Et ça, bien sûr, le signe le plus fort de ce refus au mélange, c'est le fait qu'on ne se marie pas entre communautés. On ne prend pas sa femme dans une autre communauté, même si les communautés sont chrétiennes. Un grec ne va pas épouser une arménienne ou très rarement. Mais avec le XIXe siècle apparaît au milieu une nouvelle mixité qui, elle, va se nourrir d'occidentalisation, de normes et de valeurs occidentales, et comme langue du français. Et ça, c'est un cosmopolitisme qui se distingue des cosmopolitismes antérieurs, des cosmopolitismes de la période moderne, en ce que les références ne sont pas locales, on ne va pas emprunter à telle ou telle culture, telle ou telle langue locale. Non, on va importer, on va s'approprier, on va essayer de s'acculturer en quelque sorte dans la modernité, et cette modernité, elle est essentiellement française. Et c'est pour ça, si je vous montre par exemple une annonce parue dans le Levant Times, par exemple dans les années 1850, si je me trompe, une institutrice diplômée de grande expérience enseignant à fond l'anglais, le français, l'allemand, avec un S s'il vous plaît, et l'italien, désire se replacer ou donner des leçons. Et la publicité, la petite annonce suivante, en anglais: an Armenian who speaks and writes English, French, Greek and Turkish and is a good bookkeeper wishes for employment as a clerk, assistant in shop or interpreter. Donc, une jeune femme arménienne qui parle l'anglais, qui parle le français, le grec et le turc, elle parle certainement l'arménien, mais elle n'en parle même pas là parce que apparemment ce n'est pas un argument de vente, ce n'est pas quelque chose qui va la faire recruter par ses patrons en puissance. Elle fait de la comptabilité, elle veut être employée. Alors c'est un nouveau profil, ce sont des gens qui sont extrêmement fluides dans ces langues, tant locales que internationales, et qui par conséquent vont se recycler dans la modernité. Et c'est ça que j'appelle un cosmopolitisme de seconde zone, un cosmopolitisme levantin, un cosmopolitisme colonial en quelque sorte, puisque la référence fondamentale, c'est la modernité. Et c'est une modernité que l'on va chercher en Occident, à Paris, à Londres, à Berlin, etc. Et par conséquent, on ne se nourrit plus de la culture locale, si ce n'est pour servir d'interprète à des marchands, des commerçants occidentaux qui voudraient pénétrer le marché local et qui pour cela ont besoin des talents linguistiques de Jean Ducrux. Mais l'objectif premier, c'est de devenir entre guillemets blanc, de devenir occidental. Et si c'est quelque chose qui caractérise essentiellement les non-musulmans, c'est vrai aussi au fur et à mesure des musulmans, c'est-à-dire que le musulman moderne, le turc moderne, qui est éduqué à l'école impériale de médecine ou qui fait ses classes à l'école militaire, il va apprendre le français, il va apprendre la géographie, la géologie par des documents en français, il va lire les feuilles de chou locales qui sont publiées en français, et par conséquent, lui aussi va commencer à s'acculturer dans cet Occident et va devenir un peu, lui aussi, cosmopolite, mais cosmopolite à la manière d'un sujet presque colonial de cette culture occidentale. Certains profitent encore mieux, en quelque sorte, de cet environnement. Vous vous souviendrez que les Arméniens dépassaient les Grecs pour ce qui est de l'intégration dans les rangs de la bureaucratie. Et la raison n'en est pas qu'ils étaient plus talentueux, mais c'est surtout qu'ils étaient, entre guillemets, plus turcs. C'est-à-dire que pour un Arménien moyen, le turc est une langue qui est pratiquée couramment. Et par conséquent, avec l'adjonction des langues étrangères, ça les rend encore plus familiers à la bureaucratie musulmane, ce qui garantit en quelque sorte beaucoup plus de sympathie, du moins jusque dans les années 1890, où l'on commence à craindre le sécessionnisme arménien va les faire préférer aux Grecs. Parce que les Grecs sont beaucoup plus entre deux eaux, entre trois eaux, entre quatre eaux. Je donne toujours l'exemple des identités plurielles que l'on arrive à découvrir chez les Grecs en se penchant uniquement sur leurs prénoms. Au XIXe siècle, un Grec qui s'appellerait très orthodoxement Stéphanos, et il y en a beaucoup, Stéphanos Moussoulous, Stéphanos Aristarchi, etc. Il va s'appeler Stéphanos chez lui, à la maison, dans sa communauté. Pour les Ottomans, il sera appelé, et ça c'est une tradition ottomane typique, il va être appelé Stéphanaki ou Istéphanaki. Et le Aki, c'est un diminutif grec qui est appliqué par les musulmans pour réduire un peu quand même le prestige d'individus. Donc c'est le petit Stéphane, c'est le petit Stéphanos qu'on appellera en turc, on l'appellera en turc le petit Stéphanos. Seulement, ce même Stéphanos ou Stéphanaki, il va aussi, lorsqu'il sera en contact avec les Britanniques, et ça arrive souvent, beaucoup d'ailleurs s'expatrient et vivent en Occident, il va devenir très facilement Stephen, puisque c'est le même nom. Et en français, Étienne Moussourous. Donc, vous voyez à quel point ces identités deviennent malléables et par conséquent, elles arrivent à répondre à tous les cas de figure et à s'intégrer dans ce cosmopolitisme où, encore une fois, la dominante est essentiellement occidentale. La ville change aussi. La ville s'urbanise, elle devient de plus en plus moderne. Il suffit de regarder deux images, c'est assez difficile de trouver des images avant-après pour cette période-là, mais là, vous avez deux images qui représente la même montée de Yüksek Kaldırım entre Galata et le quartier occidental de Pera, qui existe encore aujourd'hui. Et vous la voyez à gauche dans les années 1830-40, vous la voyez à droite vers la fin du siècle. Et on voit que le tissu urbain n'a pas vraiment énormément changé. C'est un peu plus haut dans la rue qu'on va voir l'apparition des premiers immeubles de rapport, les immeubles d'appartements, etc. Mais elle a changé dans son tissu humain et son tissu culturel. Le côté, entre guillemets, oriental à gauche disparaît à droite. Bien sûr, vous avez encore des traces de l'Orient. Lorsqu'on les cherche, on les trouve toujours, les caractères arabes, etc. Mais plus que les caractères arabes, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a à la fois de l'arabe, du turc avec des caractères arabes, du français, du grec, de l'arménien. On voit ce cosmopolitisme conjugué avec une sorte de vision urbaine qui rappelle de plus en plus les villes méditerranéennes. On pourrait être à Naples, à Marseille, dans les quartiers un peu plus modestes de Marseille. On pourrait aussi être à Alger ou à Beyrouth. On est en train de s'uniformiser dans ce cosmopolitisme levantin qui est si caractéristique du 19e siècle. J'aurai d'autres occasions de parler de cette mixité, puisque nous avons encore deux leçons qui vont traiter de périodes qui sont en plein dans cette réalité, donc nous y reviendrons par d'autres chemins. Mais je voudrais là faire une petite digression sur un autre sujet qui concerne l'égalité, celui de l'esclavage. Encore une fois, l'historiographie turque nationaliste voit d'un très mauvais œil que l'on qualifie d'esclavage le système qui était de servitude qui était utilisé dans l'Empire ottoman. Et vous aurez, si vous consultez n'importe quel ouvrage turc plus ou moins conservateur dans le sens nationaliste du terme, vous verrez que l'esclavage dans l'Empire ottoman, même s'il existait, était essentiellement domestique, beaucoup plus humain, et que la plupart des gens qui se retrouvaient en servitude étaient à long terme émancipés, libérés, et que de toute façon, on ne parle pas d'un système que l'on pourrait comparer, par exemple, avec l'esclavage l'esclavage des plantations en Amérique. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai aussi parce que le niveau de développement économique dans l'Empire ottoman et notamment dans les zones rurales n'était pas assez important pour demander l'expansion d'un système qui existait, de l'esclavage à l'esclavage agricole. Donc c'est plus une question de moyens qu'une question de principe. Parce que le principe de l'esclavage, qu'il soit domestique, qu'il soit agricole, il reste le même. Vous avez une déshumanisation des individus qui sont soumis à la volonté d'un maître. Alors, le problème, bien sûr, c'est qu'au XIXe siècle, en parallèle, si vous voulez, avec l'émancipation des populations non musulmanes, les grandes puissances, et en particulier la Grande-Bretagne, qui est un peu le porte-parole et le porte-étendard de l'abolitionnisme, vont faire pression sur l'Empire ottoman pour essayer de mettre fin à l'esclavage. Or, les Ottomans ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que c'est une tradition bien ancrée dans la société et en plus une tradition qui en fait profite essentiellement aux classes supérieures de la société. On parle d'esclavage domestique dans des situations où il y a vraiment un environnement domestique qui s'y prête, c'est-à-dire un harem, un hôtel particulier, une certaine aisance, puisque même l'esclavage est quelque chose de coûteux. D'ailleurs, d'assez coûteux, même si on ne paye pas des soldes et des salaires. Mais les Ottomans vont essayer de trouver un juste milieu en satisfaisant aux demandes britanniques, en interdisant le commerce des esclaves, mais ne vont jamais interdire l'esclavage lui-même. Et par conséquent, l'interdiction du commerce sera sans cesse contournée avec la contrebande, mais aussi grâce à la pression, à l'expansion de la Russie dans le Caucase, qui va pousser les populations circassiennes, caucasiennes, les oborlés, les adigués, toutes sortes de peuplades qui pratiquaient déjà l'esclavage et qui fournissaient à l'Empire ottoman une très grande partie des esclaves blancs, notamment féminins, c'est-à-dire les concubines et les odalisques des harems. Ces populations, lorsqu'elles vont être poussées hors de leur territoire par l'avancée des Russes, vont se réfugier en Anatolie et vont par conséquent s'implanter dans des régions beaucoup plus proches d'Istanbul, d'ailleurs, du côté de Sapanja, etc., où elles vont se recycler en quelque sorte en pratiquant l'esclavage entre guillemets volontaire. Volontaire, c'est-à-dire que les parents vont céder leurs filles, notamment, au palais impérial, et ceci sera vu comme une partie intégrante de leur propre promotion sociale, etc. Donc l'esclavage ne va jamais disparaître. Alors bien sûr, le problème de l'esclavage, c'est qu'il fait partie des fantasmes occidentaux, bien plus que l'esclavage noir en Amérique. L'esclavage noir en Amérique est quelque chose qui touche les sensibilités occidentales au niveau d'une éthique, d'une morale humaine de base, puisque il y a là un traitement qui est tellement inhumain que l'on s'insurge au nom de la civilisation, etc. Alors, même si la situation n'est pas vraiment très différente dans l'Empire ottoman, la manière dont l'Occident s'intéresse à l'esclavage est un peu différente, puisque on aime ça. On trouve que ça fait partie un peu des charmes de l'Occident, de l'Orient. L'esclavage, c'est bien sûr le harem. Ce sont ces femmes, c'est cet environnement mystérieux du harem, et c'est aussi les fantasmes de l'Occident, notamment quand il s'agit d'imaginer que ces femmes sont enlevées par des brigands moustachus et barbus dans les fins fonds de l'Asie. Donc l'image de l'esclave blanche, l'image de la femme qui ne devrait pas être esclave parce qu'elle est blanche, ce qui prouve déjà, ce qui en dit long sur les perceptions occidentales de l'esclavage, mais cette femme blanche qui se fait enlever, ravir par des brigands et qui se retrouve dans un harem, depuis Aimé Dubuc de Rivry, n'est-ce pas, que l'on prétend être la mère du sultan Mahmoud II, la cousine de Joséphine de Beauharnais, ça fait partie des fantasmes érotiques, sexuels de l'Occident. Et par conséquent, lorsqu'on regarde un peu les toiles de Jean-Léon Gérôme, par exemple, ce grand spécialiste de l'orientalisme, on voit à quel point on peut s'inventer un monde d'esclavage, un monde de harem, de promiscuité, qui va au-delà de tout ce qui existe vraiment dans l'Empire ottoman. Cette scène des concubines du sultan se baignant dans une piscine, tout ce qu'il y a de plus réel, d'ailleurs la piscine elle-même, puisque Gérôme travaillait à partir de photographies et que cette piscine, elle existe effectivement au palais de Topkapı, mais cette piscine n'a jamais été utilisée pour de tels amusements. Donc c'est vraiment tout un fantasme, et un fantasme que seuls quelques orientalistes, et ce n'est pas un hasard si ce sont des femmes, essayent de démolir. Parmi ces artistes, je citerai notamment Sophie de Bouteiller, Sophie de Sceaux, une Française qui peignait sous le pseudonyme de Henriette Brown, dont on connaît bien cette visite du harem qui a été exposée à Paris en 1860 et qui représente la réception de certaines dames voilées par d'autres dames voilées, la maîtresse de maison. Et c'est une scène orientaliste, puisqu'elle représente l'Orient, mais c'est une scène orientaliste qui chamboule un peu les clichés de l'orientalisme, puisque il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de nudité, il y a quelque chose qui, à part les voilettes, etc., et les colonnes et les arcs en mauresque, une scène qui est, somme toute, assez anodine, bourgeoise, si vous voulez. Et c'est pourquoi Henriette Brown fait un peu scandale lors du salon de 1860, lorsqu'elle expose cette toile, parce que il n'y a pas le cachet orientaliste que l'on attend de ces toiles et que leur fournit des peintres comme Boulanger ou surtout Gérôme. Et d'ailleurs, la réalité de l'Empire, elle est beaucoup plus proche de ce que représente Henriette Brown. Si l'on voit les photos de certaines princesses de l'époque, deux des filles par exemple d'Abdulmejid, à gauche Refia Sultan et à droite Fatma Sultan, ces femmes sont quand même assez loin de représenter les clichés que l'on a en tête de l'orientalisme. Le problème, bien sûr, c'est qu'elles restent confinées dans le contexte du harem, c'est-à-dire qu'elles doivent jouer à la grande dame parisienne, puisqu'elles s'habillent à la mode de Paris, et à coups de millions. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles Abdulmejid perd sa réputation de bon sultan, c'est le côté dépensier de ses filles, notamment de Refia Sultan. Mais on s'habille à la française, on s'habille chez les plus grands couturiers de Paris, mais on n'a que le harem pour se pavaner dans cette dernière mode de Paris. Donc, c'est assez touchant, mais si vous voulez, les harems, le harem impérial est en train de se créer un petit Paris local, un petit Occident local, parce que ces femmes ne peuvent pas pratiquer l'espace public, elles ne peuvent pas se rendre en ville, elles ne peuvent même pas aller à l'opéra ou au théâtre, et par conséquent, tout ce qui appartient à cette modernité que tout le monde veut, désire, va être recréé dans l'univers intime du harem. On aura des petits orchestres de concubines, d'odalisques, d'esclaves qui vont jouer les plus grands airs de Verdi. On va organiser des petits ballets, on va se faire ces petits défilés de mode. Donc on essaye autant que possible de participer à cette modernité, même même si on n'a pas la possibilité de le faire en public. Et le règne d'Abdulmejid est un peu caractérisé par ce dilemme. On est très occidentalisé, mais on n'a pas vraiment les moyens de sa politique. Il y a des limites et bien sûr, il y a une certaine opposition. D'ailleurs, lorsque Abdulmejid meurt en 1861, et il meurt à l'âge de... il est né en 23, ça lui fait à peine 33 ans, il est très jeune, et il meurt lui aussi, comme son père, d'excès d'alcool, etc. Il a toujours été très malingre, très maladif, donc il ne survit pas à une vie d'excès, à une vie assez malsaine. Il est remplacé par son frère Abdulaziz. Et c'est un grand événement d'abord qui est accueilli par le public ottoman avec beaucoup d'enthousiasme parce que, je vous le disais, on en avait assez des fantaisies occidentalisantes et occidentales d'Abdulmejid. On le considérait de plus en plus comme un diavol paradichar, un sultan infidèle. Alors que Abdulaziz, dès le départ, se présente un peu comme l'anti-Mejid, l'image inversée de son frère. Il est corpulent, c'est un lutteur, il aime les sports locaux, il est croyant, il veut en quelque sorte ramener à l'Empire ottoman son identité première, son identité musulmane, on ne parle pas vraiment de turcité à cette époque-là, il veut y amener une dimension locale, musulmane, conservatrice, que l'on jugeait avoir disparu sous le règne d'Abdulmejid. Et j'ai pour cela une illustration qui est très intéressante, une illustration tirée de, je crois, l'Univers illustré, une de ces revues illustrées de la période, une revue française, qui, dès l'accession au trône d'Abdulaziz, va présenter cette image qui est en elle-même très intéressante. D'abord parce que, et ça c'est typique de la manière dont l'information circulait à cette époque-là, le sultan, le nouveau sultan, est beau comme un as, et il est beau comme tout, et il est très svelte, alors que nous savons qu'il était beaucoup plus fort, beaucoup plus corpulent. Cela s'explique tout simplement par le fait que une semaine à peine a passé depuis son accession au trône, et par conséquent, les journaux illustrés à Paris ne disposent pas encore de véritables illustrations du sultan. Donc on va essayer de tracer un portrait générique du sultan en s'inspirant de son frère décédé. Après tout, si son frère, ils vont se ressembler, n'est-ce pas? Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la scène qui est représentée. Vous voyez peut-être la légende, Abdulaziz refusant l'esclave qui, suivant la coutume, lui est présenté par la sultane mère à l'occasion de son avènement au trône. Alors, il y a tout un programme derrière cette légende. D'abord, il y a de l'orientalisme, alors ne serait-ce que le petit fantasme, encore une fois, de l'esclave qui est présenté, dont on fait cadeau au souverain. Mais le sous-texte, c'est qu'on est encore convaincu que l'Empire ottoman est en train de s'occidentaliser à toute vitesse et que par conséquent, le sultan à cette époque-là n'ayant qu'une femme, il est en fait monogame. Ce qui est faux. Ce qui est faux. C'est vrai qu'Aziz a un profil un peu différent. Par exemple, c'est le premier sultan à avoir eu un fils alors qu'il était encore prince. Et ça, c'est une grâce qui lui a été faite par son frère, puisque la tradition ottomane veut que les princes n'aient pas d'enfants et surtout pas de fils tant qu'ils ne sont pas sur le trône, ce qui limite un peu la capacité de la dynastie à se régénérer, etc. Mais c'est un principe de base. On ne veut pas de constitution de petites dynasties, de sous-dynasties. Et par conséquent, les sultans jusqu'à lui n'ont fait d'enfants, ou alors les enfants de ces sultans n'ont survécu qu'à partir de leur avènement au trône. Seule exception, le fils de d'Abdulaziz va naître en 1857, donc 4 ans avant sa naissance. C'est vrai que sa naissance ne sera annoncée qu'en 61, une fois qu'il sera monté sur le trône, mais c'est quand même un signe d'émancipation qui n'échappe pas aux observateurs. Et surtout, bon, c'est encore un prince et il se trouve qu'il n'a encore qu'une femme. Et par conséquent, les observateurs occidentaux sont sûrs de voir là un signe d'une transformation de la dynastie vers, en gros, une monarchie occidentale, donc une monarchie un peu plus humaine et surtout une monarchie qui va se défaire de cette tare de l'Orient qu'est la polygamie et le harem. Et par conséquent, cette histoire qui est complètement inventée est une sorte de perche tendue au lectorat français pour leur donner une idée positive, bien sûr, de l'Empire ottoman qui se modernise. En fait, Aziz est un sultan qui adopte des attitudes très modernes sur certains points, notamment pour ce qui est de la promotion de ce jeune fils qui lui était né 4 ans avant son intronisation. Il va faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il va le promouvoir, le lancer un peu dans l'espace public en lui offrant des grades et des postes dans l'armée à un âge très jeune. Là, on le voit, l'incorporation de Yusuf Izzeddin, c'est le nom de ce jeune prince, fils du sultan, dans la garde impériale turque le 23 juillet. Nous sommes en 1861. Il a 4 ans. D'ailleurs, il est dans les bras du généralissime, du Seraskel. C'est quelque chose dont on connaît un exemple contemporain en France, c'est Louis-Napoléon, le fils de Napoléon III, Loulou pour les intimes, qui, depuis sa naissance, a été intégré un peu dans le cérémonial impérial. Ça fait partie un peu de cette modernité des nouvelles monarchies qui veulent se mettre à la page et qui, par conséquent, veulent promouvoir la visibilité, la présence et les responsabilités des membres de la dynastie. Dans le cas d'Abdulaziz, ceci est doublé d'un autre désir, celui de circonvenir, de contourner la loi en vigueur depuis le début du XVIIe siècle, qui veut que la transmission, la succession au trône ne se fasse pas de père en fils, mais de prince, en prenant dans la population de princes existante, en prenant le plus âgé de tous les princes. C'est ce qui explique que lorsque Abdulmejid est mort en 61, ça n'est pas son fils, le jeune Mourad, qui avait quand même 21 ans, qui va monter sur le trône, c'est son frère, parce que c'est la loi de l'âge, si vous voulez, et par conséquent, le droit d'aînesse qui fait que nouveau sultan sera le plus âgé des princes impériaux. Et le rêve d'Abdulaziz, c'est en fait de se défaire de cette loi et de promouvoir à la manière des monarchies occidentales, et c'est pourquoi c'est un peu moderne, mais c'est aussi très humain, de ramener la transmission du pouvoir, la succession de père en fils. Par conséquent, ce ne sont pas tous les princes qu'il met en exergue, c'est son fils, qui est encore un jeune bambin, qu'il va essayer de promouvoir en préparant en quelque sorte le terrain pour un changement éventuel de la loi de succession. Et par conséquent, la presse illustrée de l'Empire, qui débute justement sous le règne d'Abdulaziz, va énormément utiliser des représentations. Alors, les représentations ne sont pas très belles, on fait avec les moyens du bord, mais du père et du fils ensemble, pour habituer en quelque sorte le public à cette éventualité d'une transmission de père en fils du pouvoir. la photographie, encore une fois, quelque chose qui se développe énormément sous Abdulaziz. Abdulaziz aime se faire photographier, et on le voit ici, avec les jambes bien écartées, trônant en quelque sorte dans un studio de photographe, avec une pile de livres qui prouvent bien que c'est un grand lecteur, un avide lecteur, ce qui est bien sûr ce qui n'est pas vrai, mais ça fait partie un peu de du rituel de la photographie. Et à droite, pensif, méditatif, romantique presque, son fils qui a déjà 10-12 ans là et qui pose dans un studio en se préparant en quelque sorte au grand rôle qui lui sera promis. Et donc ça, c'est un changement essentiel dans la politique d'Abdulaziz, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la modernité. Autre changement radical, et ça je l'avais déjà évoqué, c'est de redorer le blason de l'islam et de la tradition dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire de se défaire un peu de cette hyper-occidentalisation que son frère avait voulu, et essayer de se rabattre sur des valeurs locales, des valeurs traditionnelles. Et ça, on peut le voir à plusieurs niveaux. Le niveau le plus visible, le plus évident, c'est bien sûr l'architecture. C'est à cette époque-là, sous Abdulaziz, que l'on va s'essayer à l'orientalisme en architecture. L'un des premiers exemples, c'est ce bâtiment, la façade de l'exposition à Constantinople, donc les Ottomans qui, depuis 51, participent aux expositions universelles, veulent avoir leur propre exposition. Alors ce n'est pas vraiment un succès digne des expositions universelles de Paris, de Londres, etc. Mais bon, c'est un petit une tentative modeste de faire comme en Europe. Mais le bâtiment que l'on fait ériger pour l'occasion est un bâtiment mauresque. C'est un bâtiment mauresque, d'ailleurs bâti par un architecte français qui s'appelle, tenez-vous bien, Bourgeois. Donc ça en dit un peu long sur le profil un peu intellectuel de cet effort, puisque ce qu'il fait, c'est en fait recycler tous les modèles mauresques, tous les éléments décoratifs mauresques qui ont été créés par des architectes et des artistes occidentaux, généralement à partir du modèle et la découverte de l'Alhambra, et qui est un des éléments clés de des foires universelles, des expositions universelles. Donc il y a une certaine synchronicité, disons, entre le désir de l'Empire ottoman de se mettre à la page de l'orientalisme pour un objectif qui est somme toute similaire. Seulement le problème, c'est que ce style orientaliste va être utilisé pour des palais, pour des bâtiments, tout ce qu'il y a de plus sérieux, comme cette porte triomphale du ministère de la guerre, un monument que quiconque a visité Istanbul connaît sûrement et qui est aujourd'hui connu comme la porte d'entrée du campus de l'université d'Istanbul. C'est quelque chose qui est bâti dans les années 1860, à nouveau par Bourgeois, cet architecte inconnu du côté français, mais qui a quand même beaucoup servi la couronne impériale, et c'est une horreur en quelque sorte architecturalement parlant, encore une fois représentée dans la presse illustrée locale, mais qui dit bien qu'il y a confusion dans l'esprit des Ottomans entre Orient et orientalisme, c'est-à-dire qu'ils revendiquent pour essayer de donner une image orientale de leur empire, ils vont fricoter avec l'orientalisme. Ils vont utiliser des thèmes d'orientalisme qui sont des thèmes un peu de pacotille, hein, des thèmes qui, en Occident, ne sont utilisés que pour les divertissements. Vous savez que l'Alhambra, etc., c'est le nom de cinéma, de théâtre, de music hall. C'est quelque chose qui est vraiment consacré au divertissement l'assainissement du peuple, parce que c'est l'exotisme, etc., dans le contexte des foires et des expositions universelles et des divertissements urbains. Les Ottomans prennent ça au premier degré, malheureusement, et par conséquent vont se constituer sous Abdulaziz une architecture orientaliste qui se veut orientale. Et ça, on le voit jusque dans le mobilier des palais qu'il se fait bâtir. À gauche, vous avez un miroir du palais de Dolmabahçe, donc un miroir typique du côté Matuvu, mais très baroque, rococo, du palais de Dolmabahçe, de la période d'Abdulmejid. Et à droite, vous voyez un autre miroir, tout aussi horrible, bien sûr, mais dans un pur style orientaliste. Et c'est un miroir qui se trouve dans le palais de Beylerbeyi, qui a été bâti par Abdulaziz. Donc on voit bien, même au niveau de la décoration, que cette obsession pour une nouvelle identité impériale est en train de prendre le dessus. Et comme vous savez que j'ai cette obsession de tout médailler et de tout interpréter par le symbolisme des ordres, des décorations, des médailles, je pense que rien n'illustre mieux cette transition que la différence que l'on voit entre les deux ordres créés par ces deux souverains, le Mejidi créé par Abdulmejid et l'ordre Osmani créé par Abdulaziz. Alors, dans les deux cas, de toute façon, il n'y a pas de mystère. Les Ottomans se sont mis à l'art des décorations en imitant l'exemple occidental. Là, je vous donne un exemple tout à fait typique, c'est la croix de Saint-Georges, Saint-Michel et Saint-Georges, l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges britannique. Alors, quand vous voyez l'ordre du Mejidiye, l'ordre Mejidi, on voit que c'est vraiment une traduction visuelle de ce modèle occidental. On se défait simplement de ce qui est incompatible avec l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'on ne mettra pas de croix ou de Saint-Georges ou Saint-Michel, d'anges, etc. Mais on va utiliser des soleils. Et en fait, le modèle de Mejid est très occidentalisé, puisque autour du Toura, sur le médaillon central, on voit une devise en trois mots, Sadakat Hamiyet Gairet, qui veut dire loyauté, patriotisme et zèle. C'est un peu le liberté, égalité et fraternité de l'Empire. Mais en 1861, Abdulaziz va se créer son propre ordre, l'ordre Osmani, que l'on voit à droite, et on voit bien que tout en restant dans la même symbolique de l'étoile, du croissant et de l'étoile pour le pendant, etc., on va modifier la décoration, on va modifier les couleurs, on va modifier la décoration, on va introduire le rouge et le vert, et ça c'est quelque chose qui désormais deviendra classique, le vert pour l'islam, le rouge pour la turcité, et on va aussi modifier les inscriptions. Comment les modifie-t-on ? Déjà, la forme de l'étoile est beaucoup plus orientale, on introduit une forme d'orientalisme, et pour ce qui est des inscriptions, on va parler de El Mustenid ila Teifikat Rabbaniye, Abdulaziz Melik Devlet el Osmaniye, ce qui veut dire en gros Abdulaziz, souverain de l'Empire ottoman par la grâce de Dieu. Donc on est passé de patriotisme, zèle et je ne sais quoi à une formule en arabe qui en gros veut dire Abdulaziz, empereur des Ottomans par la grâce de Dieu. Donc le registre a complètement changé, on n'utilise même pas la Toura, on s'en remet à une inscription qui ne peut en fait être lue par aucun Ottoman moyen à l'époque, puisque c'est de l'arabe. On peut essayer de deviner, mais bon. Et au dos, au revers de cette même décoration, on va utiliser quelque chose qui est tout à fait nouveau. On va pratiquer le culte des ancêtres, c'est-à-dire on va remonter aux origines de l'Empire, ce qu'indique la date de 699 que l'on voit dans le petit cartouche rond, ovale. 699, c'est 1299, c'est la date présumée de la création de l'institution de l'Empire ottoman, et on va croiser deux bannières de janissaires et deux tambours de janissaires. Donc on essaye en quelque sorte de symboliser non pas l'avenir ou la modernité, mais le passé et l'histoire. Et ça, ça va être une caractéristique assez forte du règne d'Abdulaziz, cette référence constante à la pérennité de l'Empire, aux ancêtres, aux fondateurs de la dynastie, quelque chose qui lui permet encore une fois de contourner la modernité ou d'utiliser la modernité, parce qu'on reste quand même moderne, on invente quelque chose qui s'inscrit dans la modernité du symbolisme de l'époque, mais on va utiliser cette modernité pour faire passer un message qui est essentiellement un message conservateur, un message traditionnaliste. On va jouer la carte de l'islam et d'un empire conservateur pour essayer de s'attirer les sympathies de la population musulmane qui avait été tellement frustrée par les excès d'occidentalisation d'Abdulmejid. J'avais l'intention de parler, bien sûr, de ce que j'appelle vraiment les dernières illusions en parlant de la visite d'Abdulaziz en Europe. Je vais devoir faire ça au début de ma prochaine leçon, donc j'ai un petit décalage que je rattraperai éventuellement. Et pour le moment, je vous dis donc au revoir et je me réjouis dès maintenant de vous retrouver tous, j'espère, en bonne santé. Dès la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.